Monsieur le Président du Conseil régional, Madame la Vice-Présidente en charge de la Culture, Monsieur le Président du SILAC, Monsieur Louis Bergeron, Président honoraire du Comité international pour la conservation de l'héritage industriel et Président d'honneur de ce colloque, Mesdames, Messieurs, bonjour. Permettez-moi de commencer mon propos en saluant Monsieur Christian Roch, le nouveau sous-préfet de Douai, qui représente Monsieur le Préfet. Monsieur le sous-préfet, nous aurons l'occasion de vous accueillir plus longuement pour prochain, puisque nous avons un rendez-vous pour une visite plus approfondie, une prise de contact plus approfondie avec le centre. Mais merci d'être là aujourd'hui. Monsieur le consul d'Italie devait être avec nous. Il est retenu ce matin par des événements sociaux en Italie. Et donc, voilà, il s'est excusé. Il vient de s'excuser il y a quelques instants. Enfin, bienvenue à vous tous qui êtes venus participer pendant 3 jours aux travaux de ce colloque international consacré au paysage de la mine et à leur évolution. Un colloque international dont je souhaite qu'il soit la préfiguration d'échanges réguliers entre les pays miniers du monde entier. L'évolution des paysages de la mine, c'est le thème central de la programmation du Centre historique minier en 2008, c'est le thème de ce colloque. Et dans un premier temps, dans cette programmation, la programmation s'est consacrée aux empreintes de l'industrie minière dans les paysages du Nord-Pas-de-Calais, notamment à travers l'exposition Pays vert, pays noir, qui est présentée ici jusqu'au 31 décembre prochain. Mais nous avons souhaité aussi que ce regard s'élargisse aux bassins miniers du monde entier, quels que soient les gisements exploités. En effet, par l'implantation des structures de surface comme les fosses de mines, par la construction des voies de communication ou encore par l'habitat des mineurs, mais aussi par l'amoncellement des déchets de l'exploitation sous forme de terris plats ou de terris coniques, par tous ces aspects, l'exploitation minière transforme toujours de façon très nette les paysages dans lesquels elle s'implante. Alors, quelle perception en a la population locale? Quelle perception peut-elle en avoir? S'agit-il d'un rejet ou s'agit-il au contraire d'un attachement? Quel est le devenir de ces paysages lorsque s'arrête l'exploitation industrielle? Ce sont autant de questions qui vont être abordées pendant ces 3 jours par des spécialistes venus du monde entier. Et je salue ici chaleureusement nos amis canadiens, slovaques, polonais, italiens, anglais, allemands ou encore nos proches amis de la Belgique d'avoir répondu à notre invitation pour débattre de ces questions. Alors, je dis bien sûr notre invitation, puisque ce colloque est organisé conjointement par le Centre historique minier et par le SILAC. Je voudrais remercier les membres du comité d'organisation, le président du SILAC, Bernard Lemoine, son secrétaire général, Bernard André, et Denis Voronoff, professeur honoraire d'histoire économique à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et pour le Centre historique minier, André Dubuc, notre directeur général, Virginie de Brabant, la directrice des archives, qui a été assistée par Frédéric Delforge, assistante de documentation, et par Célia Vesy, chargée de mission. Je connais bien, pour avoir suivi de près le travail accompli depuis de longs mois par ce comité d'organisation, et je les remercie chaleureusement pour le travail qu'ils ont accompli pour que tout se déroule dans les meilleures conditions possibles. Je suis sûre que tout sera parfait. Mais je tiens aussi, tout particulièrement, à vous remercier, Monsieur le Président du Conseil régional et Madame la Vice-Présidente chargée de la Culture. Vous remercier d'abord de l'honneur que vous nous accordez en acceptant de présidé l'ouverture de ce colloque aujourd'hui. Et du coup, c'est pour moi l'occasion de redire à quel point le Conseil régional est présent aux côtés du Centre historique minier pour le soutenir dans toutes ses actions, que ce soit en fonctionnement ou en investissement. C'est grâce à vous que nous avons pu organiser ce colloque, mais c'est aussi grâce à vous que nous avons pu ouvrir ces derniers jours deux expositions permanentes que nous testons actuellement auprès du public pour les parfaire et nous les inaugurons ensemble au mois de février prochain, si vous le voulez bien. Enfin, un grand merci à tous les participants de ce colloque, particulièrement attentifs et motivés, je le sens déjà. Vous êtes 130 à avoir répondu à notre invitation et c'est, je crois, le présage de travaux fructueux et animés dont nous publierons rapidement les actes. Ces travaux se dérouleront à la fois au Centre historique minier, mais aussi dans tout le bassin minier, puisque vous aurez l'occasion de l'arpenter d'est en ouest dans toute son étendue pendant deux après-midi de découverte, cet après-midi et demain après-midi. Et enfin, c'est pour moi l'occasion de remercier tout aussi chaleureusement nos autres partenaires de la valorisation de la culture minière dans le Nord-Pas-de-Calais, partenaires avec qui nous travaillons au quotidien, la mission Bassin Minier, l'association Bassin Minier UNESCO, l'association La Chaîne des Terris et le parc naturel régional Seine-Scarpesco, qui sont avec nous aujourd'hui et qui seront présents pour vous accueillir sur place dans tout le bassin minier. Ce travail en étroite collaboration est exemplaire d'un vrai travail d'équipe à l'échelon régional et je tenais à le souligner. À vous tous, participants et intervenants, je souhaite un bon séjour au Centre historique minier, des travaux fructueux et je vous souhaite aussi un bon séjour dans notre très beau bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Merci.
La parole est maintenant à Monsieur Bertrand Lemoine, directeur de recherche au CNRS, directeur de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Villette et président du CILAC.
Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Sous-Préfet, Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux au nom du CILAC de vous accueillir ici pour ce colloque sur le patrimoine minier et sur cette dimension paysagère, dimension peut-être contestée, en tous les cas bien présente, et qui est co-organisée par le CILAC et le Centre historique et minier de Leward. Ce colloque s'inscrit dans un ensemble d'actions que mène le CILAC depuis de nombreuses années, depuis plus de 30 ans maintenant. Le CILAC, comme vous le savez, est une association importante, compte à peu près 350 membres physiques, associations diverses d'ailleurs, français ou étrangers, dont la vocation et de promouvoir, de faire connaître, de préserver aussi, de contribuer à mettre en valeur le patrimoine industriel et technique sous toutes ses formes. Le CILAC, pour cela, édite une revue, avec l'archéologie industrielle, qui en est maintenant à son 52e numéro. Elle publie également un site internet, www.silac.com, sur lequel, d'ailleurs, vous pourrez retrouver en temps réel, dès ce soir, des photos du colloque, grâce aux photographies du Vernier, qui est en train de les faire d'ailleurs. Le CILAC organise des formations, notamment des formations à destination des personnels dans les régions, pour les aider à mieux mettre en valeur, mieux se servir des outils dont nous disposons pour mettre en valeur le patrimoine industriel. Le CILAC organise des études, une étude en cours est intéressante, elle s'achève actuellement, elle s'appelle « Que sont devenus nos bâtiments, nos éléments protégés au titre des monuments historiques, parfois longtemps après leur protection, sont-ils aujourd'hui toujours vivants, toujours en état, toujours en train d'être reconnus comme tels ? Et puis le CILAC organise bien sûr des événements, notamment des colloques nationaux ou internationaux, comme ce colloque, comme ce 15e colloque organisé par le CILAC. Et nous sommes très heureux que ce colloque ait pu être organisé avec le Centre historique et minier de Leward. Cette idée d'ailleurs d'un colloque sur le thème du paysage est née de la convergence de deux démarches un peu simultanées, l'une entreprise par le centre et l'autre par le SILAC, qui se sont rejointes dans une problématique commune et qui nous a permis de partager cette organisation, de faire en sorte que ce colloque accueille, comme de nombreux auditeurs que vous êtes, et nous a permis aussi, bien sûr, de bénéficier de l'excellence de l'organisation du centre et de l'implication de ses équipes. Bien sûr, Mme Marcaille, André Dubuc, son directeur, toutes les équipes du centre, se sont associées à celles du SILAC, notamment Bernard-André et Denis Voronoff, qui ont été un peu les chevilles ouvrières aussi de l'organisation de ce colloque. Et nous remercions vraiment chaleureusement le centre et toutes ses équipes de nous accueillir ici et de permettre à ce colloque d'avoir cette dimension importante, internationale également, et son écho, bien sûr, au-delà même de l'événement qu'il représente. Cette manifestation s'inscrit sur le thème, sous un titre un peu d'ailleurs problématique, le paysage de la mine, un paysage contesté. Pourquoi un paysage contesté? Parce que l'idée du paysage attaché à un patrimoine industriel ou un patrimoine technique n'est certes pas une des nouvelles. Vous vous souvenez de livres qui étaient sortis il y a déjà une trentaine d'années, sous le titre du paysage de l'industrie, par exemple. On reconnaissait déjà cette dimension, mais cette dimension a été en fait assez longue à s'établir. Le vert et le noir sont deux couleurs qu'il n'est pas facile de marier ensemble. Le noir, d'ailleurs, on devrait peut-être étendre la palette au-delà, parce que le paysage de la mine, ce n'est pas seulement le paysage de la mine de charbon, des tas de sortes de mines en France, des tas de matériaux, dans le monde aussi, bien sûr. Et ce paysage de la mine est associé non seulement à des installations d'extraction proprement dites, des installations industrielles, mais aussi à tout un ensemble de typologies construites qui accompagnent cette action industrielle. Des logements, des équipements, des écoles, etc., qui forment en fait un ensemble construit qui va bien au-delà de la simple valorisation de l'outil, je dirais, industriel. Cette dimension patrimoniale dans sa dimension territoriale n'est pas toujours aussi facilement comprise qu'on pourrait l'imaginer. L'objet technique, l'objet industriel, la machine, le bâtiment ou l'élément ou la trace construite est aujourd'hui, je dirais, valorisé, même si on peut regretter peut-être la disparition de la commission spécifique de la Commission nationale des monuments historiques qui s'occupait, qui traitait de ce patrimoine. Mais elle est aujourd'hui intégrée. Bon nombre d'édifices ou de constructions ou d'objets techniques sont aujourd'hui préservés au titre des monuments historiques. Mais la dimension patrimoniale territoriale plus large est plus difficile à mettre en œuvre. Elle se heurte aussi à des considérations souvent économiques, à des problématiques d'aménagement, dans lesquelles la valorisation d'ailleurs du potentiel économique de ces patrimoines n'est pas forcément toujours intégrée. Elle sort aussi à des résistances culturelles, il faut bien le dire, quelque chose qu'on a toujours perçu comme un outil industriel, parfois avec son caractère de repoussoir éventuellement. Il n'est pas facile d'intervenir, de renverser la tendance et de faire en sorte de le positiver, de l'intégrer comme un élément constitutif d'un nouveau paysage qui prend d'ailleurs une dimension qui va bien au-delà de sa simple dimension technique. Je crois que c'est l'objet de ce colloque aujourd'hui que de poser un peu ces questions, après d'ailleurs beaucoup d'études, beaucoup de recherches, beaucoup de discussions, beaucoup de développements qui se sont développés depuis quelques années. Je crois qu'une bonne convergence aussi, et bien sûr, est la démarche entreprise par la région, par l'ensemble des partenaires locaux, pour faire inscrire au patrimoine mondial de l'humanité un ensemble de sites miniers sur la région. Je crois que cette démarche est très importante, elle est bien engagée, l'instruction du dossier est en train d'aboutir. On a bon espoir tous que, bien sûr, d'ici 2 ans, 3 ans peut-être, cette inscription sera effective et sera une reconnaissance publique extrêmement importante qui va montrer que cette dimension construite, mais aussi cette dimension paysagère, eh bien, sera pleinement prise en compte, je dirais, à l'échelle de l'humanité. Je crois que la présence du président de la région, de la vice-présidente chargée de la culture, que je remercie chaleureusement d'être présent parmi nous et de présider notre ouverture de ce colloque, témoigne de l'intérêt fort de la région pour cette dimension paysagère. Bien sûr, les mines, le paysage minier est un constitutif, je dirais, de la région Nord-Pas-de-Calais. Mais en même temps, je crois que cette intégration maintenant dans la réflexion d'aménagement de ce paysage est en bonne voie. Je souhaite vraiment que nous poursuivions le SILAC, une collaboration avec des instances comme le Centre historique, mais des instances élues comme les conseils régionaux ou généraux, une collaboration efficace. Je crois que c'est la voie de l'avenir. Et je remercie encore une fois le président d'être là. Et j'ai bon espoir aussi que le soutien que la région pourra apporter, même a posteriori, à l'organisation de ce colloque en ce qui concerne le SILAC, sera entendu. Je vous souhaite tous un excellent colloque. Il y a une vingtaine d'interventions qui sont prévues, françaises, étrangères. On les a cités tout à l'heure. Il y a aussi dans ce colloque une structure, une organisation particulière, puisqu'il y a une alternance entre des discours, entre des conférences, des débats et des visites sur le terrain. Je crois que c'est important d'aller sur le terrain, de voir, de faire le lien entre ce qu'on voit, ce qu'on ressent d'ailleurs, ce que l'on peut partager sur les sites avec la réflexion plus théorique, avec la réflexion historique, avec l'accumulation aussi de connaissances et la diffusion de ces connaissances. Je crois que c'est important de mélanger ces deux parties. Dès cet après-midi, nous serons sur le terrain pour visiter. Une équipe aussi de la Maison des sciences de l'homme va filmer l'ensemble des débats, hein, et ces débats seront retranscrits ensuite sur un site internet qui vous permettront, non seulement à vous, mais à d'autres, bien sûr, dans le monde entier, d'accéder à ce qui s'est dit aujourd'hui et à partager l'ensemble de ces débats, bien au-delà de la rencontre d'aujourd'hui. Merci à tous. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Vice-Présidente. Monsieur le Sous-Préfet, d'être présent encore une fois et de manifester ainsi votre intérêt pour ce colloque. Merci à tous les intervenants qui vont s'exprimer pendant ces 3 jours de colloque. Merci aussi à vous d'être présent ici au nom du SILAC. Nous sommes vraiment extrêmement heureux de vous accueillir avec nos amis et partenaires du Centre historique et minier pour ce colloque. Merci beaucoup.
Nous allons avoir le plaisir d'entendre quelques mots de Madame Catherine Génisson, députée du Pas-de-Calais et vice-présidente du Conseil régional en charge de la culture.
Merci, Monsieur le Directeur, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, chers amis. C'est un grand honneur pour moi que de participer à l'ouverture de ce colloque. Mais je sais que vous attendez tous les propos de notre président de région. Aussi, vous me permettrez d'être très concise. Néanmoins, je suis très heureuse de saluer Monsieur le sous-préfet de Douai. Je m'exprime également sous l'œil attentif de Daniel Miot, gardien du temple de ce lieu, s'il en est. Et également, je me permettrai de saluer Monsieur Jacques Verlaine. En saluant Jacques Verlaine, je salue tous les membres du conseil d'administration de ce beau lieu qu'est le Centre historique minier. Centre historique minier est dirigé par une main de fer, mais un perfectionniste, en la personne d'André Dubuc, à qui l'on doit la très belle exposition Pays vert, pays noir, et ce colloque clos cette très belle exposition qui a eu le très beau propos que de nous présenter ces paysages, nos paysages, au fil des saisons. Et c'est une très très belle idée qui montre, vous l'avez dit, Monsieur Lemoine, quelquefois, le vert et le noir se marient peut-être mal, mais le vert et le noir, sous le soleil, sous les nuages, au cours des saisons, peuvent également être tout à fait poétiques et tout à fait remarquables. Et puis, nos paysages sont tout à fait partie intégrante de notre vie sur notre territoire. Et lorsque j'ai lu le titre « Paysage patrimoine contesté », j'ai trouvé la formule quelque peu impertinente, mais sans doute permettant d'ouvrir le débat. Et je lui préfère peut-être les propos de Stendhal qui dit que les paysages étaient comme un archer qui jouait sur mon âme. Pour autant, le débat est ouvert et je vous souhaite un très très beau colloque. En ce qui me concerne, parce que je pense que l'art est une visite du temps, j'évoquerai très rapidement avec vous quelques rendez-vous qui sont à l'initiative de notre conseil régional concernant la rencontre de la culture avec tout le sujet que vous évoquez aujourd'hui autour de l'importance du patrimoine dans notre vie collective et dans notre vie personnelle. Il y a bien sûr ce très grand projet soutenu par la région à l'initiative du maire de Los Angeles, le classement au patrimoine mondial de l'humanité du bassin minier, au patrimoine de l'UNESCO. Mais je ne m'appesantirai pas sur ce sujet-là, car je sais que notre président vous en parlera beaucoup plus longuement. Je voudrais également, bien évidemment, évoquer ce très beau projet du Louvre-Lens. Je n'en évoquerai pas le contenu, mais je voudrais vous indiquer combien sa proposition architecturale avec ce quadrilatère de verre, partie centrale de ce musée, permettra la transparence absolue, donc permettra la restitution du paysage dans lequel il est implanté, de même que les bâtiments connexes, qui sont des parallépipèdes dont les parois sont métallisées et qui reflèteront nos paysages et qui seront donc et qui permettront une intégration parfaite de ce magnifique musée, de ce musée à l'histoire universelle, de ce musée qui raconte l'histoire du monde, de moins 3300 à 1852, alors même, et sans vouloir contredire notre présidente Jeannine, pour le Lensois, le début de la mine, c'était 1851. Donc cette continuité de l'histoire avec l'implantation de ce musée et cette communion de ce musée dans ce paysage, je pense que c'est un très beau propos, au-delà, bien évidemment, de toute l'histoire de l'implantation du musée du Louvre. Je pourrais continuer également les évocations culturelles qui permettent d'illustrer la vie de notre région, si influencée par nos paysages, quand j'évoque la commémoration de la catastrophe de Courrières qui a été magnifiquement illustrée par la chorégraphe Marie-Claude Pietragala avec ce magnifique ballet Conditions humaines qui est de façon moderne nous indiquer ce qu'avait été cette catastrophe, mais ce qu'a été aussi tout ce que l'on doit au monde des mineurs, tout ce que l'on doit à la mine. Et à ce titre, d'ailleurs, je voudrais me féliciter que à Le Warn, nous entendions encore la parole des mineurs qui nous racontent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont été et ce qui fait notre richesse. Et j'en terminerai en vous disant que les lieux sont aussi des liens et ils sont notre mémoire. Merci.
Monsieur Daniel Percheron, sénateur du Pas-de-Calais et président du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais.
Merci. Vous, est-ce que vous permettez, non pas que je fasse entendre ma différence, mais que je vous parle depuis cette tribune où je suis, non pas modestement, mais remarquablement installé aux côtés de Monsieur Lemoine, et puis aussi entre la Dream Team du Conseil régional, celle qui anime notamment le centre de Le Warn, le centre minier, le musée de la mine, et celle qui incarne la culture, l'ambition culturelle d'une région de 4 millions d'habitants. Je ne veux pas m'éloigner de vous, monsieur le sous-préfet, je vous rassure tout de suite. Soyez le bienvenu et faites en sorte de vous implanter, de vous enraciner dans ce formidable arrondissement de Douai, au cœur du bassin minier. Nous accueillons toujours les remarquables représentants de l'État avec la même curiosité, la même indulgence, ô combien nécessaire. Et puis aussi, nous les voyons partir avec les mêmes regrets, car nous savons que notre corps préfectoral sert l'État de manière exemplaire. Heureux État, aux poches vides, mais aux préfets, aux sous-préfets, toujours aussi compétents et loyaux, de colloques en visite, de découvertes en promotion ou en oria de responsabilité. Alors je salue M. Lemoine qui a introduit ce colloque, tous les acteurs du musée de la mine de Le Warn, c'est bien comme ça que nous disons, de ce musée un peu paradoxal, niché dans la verdure, que l'on atteint, moi j'arrive de Boulogne, après avoir zigzagué, cheminé à travers des champs, des arbres, des paysages qui ne sont pas tout à fait au cœur de la contestation que vous évoquez pour ce débat qui va durer plusieurs heures. Alors écoutez, moi en tant que président, je vais vous parler politique, politique, je le dis à Massimo, qui vient de l'Italie, et j'en profite pour saluer tous les chercheurs qui ont pris le temps et qui ont fait les kilomètres nécessaires pour nous éclairer et nous accompagner. Je vais essayer de dire à M. Verlaine, qui connaît bien mon point de vue, il ne dira jamais, parce que en tant qu'ancien patron de droit divin des houillères du Nord-Pas-de-Calais, il est particulièrement policé. Donc il ne vous dira pas qu'il me connaît, qu'il a tendance, il a parfois le sentiment que je rabâche, hein, que je suis à la limite du radotage. Mais enfin bref, je vais vous dire à peu près comment je vois ce problème. Bon, un président de région, un conseiller régional, ce n'est pas un héros, pas du tout. Mais il y a des fins de journée où nous sommes fatigués, n'est-ce pas, Daniel Bio. Et quand je suis fatigué, et quand il faut encore le verbe solliciter, je pense aux mineurs de ma cité, la cité 12. Je fonctionne à l'aspirine et je fonctionne à la cité minière. Ça peut vous sembler extraordinaire, mais c'est la stricte vérité. Lorsqu'il faut parler, notamment à de remarquables assemblées, où je sais que je représente à peu près 10% des voix, bon, eh bien, je vais puiser dans ma jeunesse, dans mon parcours, dans ce qui est au cœur de ce que je pense être ma relative légitimité, je vais puiser les forces nécessaires. Et je vais vous prendre par la main pour, en quelques dates, parler de la contestation ou de la duplication ou de la transfiguration des paysages miniers tels que je les vis et tels que j'ai milité pour pouvoir vous en parler et pour pouvoir avancer. En 1972, un premier ministre dynamique, jeune, porteur, d'après lui et d'après une majorité de Français, d'un projet ambitieux, la nouvelle société, pratiquait la première politique de la ville dans le bassin minier, 1972. Jacques Chaban-Delmas détruisait les bidonvilles, on l'a oublié, mais aux portes des villes, les traces de la deuxième grande guerre subsistaient toujours, le provisoire semblait éternel, Jacques Chaban-Delmas rasait les bidonvilles. Il suffit de regarder les journaux télévisés de l'époque. Et il venait à Auchel, dans le bassin minier, il rencontrait les élus miniers, qui s'étaient heureusement fédérés en association des communes minières, et il hésitait devant les solutions à apporter au cœur du paysage minier, à la géométrie qui semblait monotone, à la solidité qui semblait un peu surannée et dépassée des cités minières, autrement dit des villes minières. Georges Pompidou lui avait dit, en quelque sorte, avec cette intelligence aiguë irremplaçable, ce que nous ne pouvons pas donner par le charbon, nous pouvons peut-être le donner par la maison. Et Georges Pompidou, ce président si moderne, pensait offrir la maison aux mineurs, loger gratuitement, leur en donner la propriété. L'autre solution, et qui a finalement été retenue, a été ce qu'on a appelé la rénovation minière, la politique, première politique de la ville, des villes existantes en France. Et on s'est mis à rénover les cités minières, on s'est mis en quelque sorte à dupliquer le paysage minier. Alors on peut discuter éternellement sur la qualité de la rénovation, disant que pour les années 70, disant que pour l'époque de Delouvrier, disons que pour les rêves qui existaient et qui se concrétisaient d'aménagement du territoire, il y avait là une véritable ambition. Rénovation de la cité minière, avenir du charbon problématique, indiscutablement, paysages miniers, considérés quand même avant tout comme des témoins fragiles et peut-être superflus du passé. Premier point, 72. Bon, on est au cœur du problème. Mais l'ensemble des élus, appuyés sur la population, dit « va pour la rénovation, va pour le maintien des paysages miniers ». Bien sûr, telle ou telle terrie sera arasée, telle ou telle fosse peut être banalisée, voire démantelée, mais le bassin minier demeure. 1987, 15 ans après, un document d'urbanisme exceptionnel. Un haut fonctionnaire qui avait construit des villes nouvelles, notamment en Normandie, M. Lacaze, publie à la demande de M. Meignery un document à nul autre pareil sur le bassin minier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit très simplement les villes minières. Un million d'habitants sont des villes qui ne sont pas tout à fait des villes. Elles ont été conçues par et pour le charbon. Le charbon, c'est fini. Les villes minières, cela doit finir. Et il propose à M. Meignery d'inventer dans le Nord-Pas-de-Calais ce qu'il appelle le resserrement urbain. Il dit-il, ayons le courage de refuser à la plupart des villes minières le statut urbain. Le statut urbain. profitons du rapport de force. Nous sentons que les élus, devant cette mutation interminable, baissent les bras. Profitons du rapport de force pour tout simplement changer profondément le statut urbain du bassin minier et de la plupart des villes minières. Et au même instant, les Houillères publient une liste non contraignante, non exhaustive, provisoire, mais en fait définitive, de 70 000 logements à détruire. Une liste de cités à raser, 1987. Les élus du bassin minier, qui avaient dit oui à la rénovation, sont incertains. Je vous le dis, franchement, sont incertains. Et je me souviens de la réunion de l'hôtel de ville de Lens, où personnellement, je propose, et Dieu merci, je pense que c'est accepté, malgré la simplicité des réponses, deux solutions. Premièrement, où nous faisons une communauté urbaine, et nous rétablissons l'identité urbaine du bassin minier face à cette offensive sans précédent. Monsieur Lacaze disait, nous savons construire des villes nouvelles, nous ne savons pas détruire des villes anciennes, qui ne sont pas de vraies villes, ayons le courage de l'apprendre dans le bassin minier. Donc, où nous faisons la communauté urbaine, mais dans un bassin minier où les paysages rappellent l'histoire et les divisions du mouvement ouvrier, la communauté urbaine était pratiquement impossible à constituer, elle ne l'a pas été. Où nous devenons propriétaires du patrimoine. Et c'est ce que je proposerai à Michel Rocard immédiatement dès qu'il sera Premier ministre en 1991. Et il me téléphonera d'ailleurs pour me dire aussitôt après, venir propriétaire du paysage, du patrimoine, devenir propriétaire en quelque sorte des houillères, après les houillères, après la grande entreprise monolithique et publique, c'est impossible. C'est impossible, j'y arrive pas. Bercy ne veut pas. Et il y a des pesanteurs telles qu'il faut y redanser. 1987. Bon. Nous venons de très loin. 2004. 2001, entre-temps, si vous préférez. 2001, un ministre des Finances est pressé. Et Laurent Fabius me reçoit en tant que sénateur du bassin minier en regardant sa montre. Il a raison, le temps est compté. Et il me dit... La propriété du bassin minier, l'achat des logements, c'est problématique. J'avais déjà entendu le discours du Premier ministre auparavant. Je ne vois pas comment on va pouvoir vous le céder pour le franc symbolique. Les mineurs l'avaient payé, et cher, à quel prix. Mais juridiquement, c'est trop compliqué. Bien, ceci étant dit, les élus du bassin minier font ce qu'ils n'ont jamais fait. Ils plongent la main dans leur poche vide et ils offrent d'acheter le patrimoine minier. Et les élus du bassin minier deviennent enfin propriétaires du paysage minier, du patrimoine minier, si contesté. Hein, le terme est juste. 2001. 2004, alors c'est littéralement la convergence des bonheurs. Bon, il y a l'attitude extraordinaire d'Henri Loirette, le patron du Louvre, qui n'est pas encore l'ambassadeur exceptionnel que le monde s'arrache. Oui, Henri Loirette. Qui, à partir d'un entrefilet du Monde, le Louvre envisage d'ouvrir une antenne ailleurs, en France, un petit Louvre, oui, peut-être à Nantes, peut-être à Montpellier, peut-être à Lyon, là où la richesse existe, oui, qui donc, à partir de cet entrefilet, répond tout simplement quand nous lui posons la question, et si c'était Lens, est-ce que ce serait ridicule? Répondons bien au contraire, bien au contraire. Et c'est le projet du Louvre-Lens qui s'installe miraculeusement sur une fosse minière, le 9 de Lens. Ouais. Extraordinaire projet, le plus grand musée du monde sur un carreau de mine. À qui le doit-on? Et à partir de là, et jamais le bassin minier ne devra l'oublier, nous le devons à Jacques Chirac, le président de la République, qui devant d'autres candidatures beaucoup plus proches de lui, ouais, même celle de ses ministres, choisit Lens et choisit au cœur du paysage minier, au cœur du bassin minier, d'implanter le plus grand musée du monde. Avec tout ce que ça peut éventuellement comporter, j'en conclurai sur ce point. Et puis, c'est le rêve, peut-être un peu déraisonnable, mais ô combien réaliste, de faire classer le bassin minier au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, au titre des paysages culturels évolutifs. Formidable pari qui change la nature des regards, qui change la nature des interventions, qui change la nature des appréciations que chaque acteur, désormais, politique, culturel, économique, porte sur les terris, sur les cités, sur le bassin minier. C'est un moment un peu magique. Puis il y a aussi, en même temps, la signature de la région avec M. Borloo, et il vient aussi du bassin minier, de l'ANRU, c'est-à-dire des grandes politiques de ville qui ne s'adressent pas directement à l'habitat minier dont parlait M. Lacaze, à l'habitat minier miraculeusement sauvegardé, mais qui sont quand même au cœur de ce raisonnement que nous faisons et qui s'applique à nos villes minières, à nos paysages miniers, à nos friches minières. Si nous ne remettons pas nos villes à niveau, nos paysages à niveau, jamais nous ne serons, après la révolution industrielle, la Silicon Valley. Hein. Le raccourci qu'on nous propose toujours, la textile, le charbon, la sidérurgie, c'est fini, aller dans les nouvelles technologies, ce raccourci est impossible, car là où il y a eu la grande industrie, l'emploi repousse très, très, très lentement. Oui. Alors, ce raccourci devient trop problématique. En tout cas, c'est un point aussi très important pour nous. Le 21 novembre, et je termine, j'étais un peu long, à Lens, nous allons réunir sur le paysage contesté du bassin minier, à l'occasion d'un merveilleux prétexte, l'arrivée du Louvre, nous allons réunir tous les acteurs du bassin minier, toutes les institutions, et nous allons leur proposer de créer Eura-Lens, comme a été créé Eura-Lille. Eura-Lille, il y a eu une opportunité, le tunnel, le TGV, l'entrée du TGV dans Lille, un nouveau destin pour la métropole régionale. Pierre Monroy l'a immédiatement saisi et l'a concrétisé. L'arrivée du Louvre doit nous permettre, au cœur du bassin minier, des paysages miniers, l'arrivée du Louvre doit nous permettre de créer Eura-Lens, c'est-à-dire d'avoir un projet global. Ce sera une réunion non pas informelle, mais non contraignante. Il y aura les propriétaires du patrimoine minier, car vu d'Arthus Bertrand, les cités minières sont extraordinairement, vues du ciel, harmonieuses et modernes. Et nous réalisons que nous avons, et nous sommes les seuls en France et en Europe, l'habitat social individuel avec jardin qui peuvent transcender la réalité urbaine du bassin minier. Il y aura bien sûr la région, il y aura les milieux économiques qui auront à préciser leurs pensées. Il y aura bien entendu les porteurs du projet, que j'ai dit, déraisonnable, réaliste, qui fait rêver de l'UNESCO. Il y aura aussi tous ceux qui pensent qu'au cœur du bassin minier, nous pouvons agir. Deux, trois exemples. Au pied des grands terris, nous avons l'intention, au pied des plus grands terris d'Europe, des plus hauts terris d'Europe, de créer, en relation avec ici le musée de la mine, oui, un endroit magique dont on nous parlait hier au Frénois, dans la Villa Médicis de l'image, dont on nous parlait au futur, qui s'appellera Mineur du Monde et qui nous connectera avec les nouvelles technologies progressivement à tous les bassins miniers du monde. Car nous voulons que les paysages miniers, non seulement vivent, mais dialoguent à partir du 11-19 de Los Angeles. Et comme à Bilbao, ils ont saisi le prétexte Guggenheim pour raser la ville industrielle et refaire la ville, si j'ose dire, la nouvelle ville du 21e siècle de Bilbao, nous allons essayer d'utiliser l'arrivée du Louvre pour transcender la réalité des cités minières. C'est-à-dire que refaire la ville dans le bassin minier, refaire la ville au cœur du paysage minier, c'est d'abord refaire les cités. Et nous allons créer, à partir des cités, les euro-cités du 21e siècle. Est-ce que nous en aurons la force? Est-ce que nous en aurons l'intelligence? La question est posée. Mais nous avons l'intention d'y amener le haut débit. Nous avons l'intention, à partir du parc du Louvre, d'y amener l'esprit, hein, l'esprit du parc dans les jardins. Nous avons l'intention, là où on est mort pour produire de l'énergie, d'avoir un habitat qui, à sa manière, économise, voire produit lui aussi de l'énergie, mais au nom de l'économie de la planète. Et puis les villes, nous dirons, les villes minières, dont Lacaze ne voulait pas entendre parler, si elles acceptent des éléments de centralité, car le problème du paysage minier, c'est aussi la centralité urbaine. Si elles acceptent des éléments, hein, des prouesses du 21e siècle, hein, soit des éléments verticaux, des éléments originaux, la question est posée. Et puis sur les terris, nous réfléchirons aussi, profondément. Faut-il les éclairer? Peut-on classer le patrimoine minier au titre du patrimoine mondial sans des repères, sans des bornes? la seule critique qui nous a été faite, et elle m'a semblé très forte, lorsque nous sommes passés avec Jean-François Caron devant le jury, très indulgent, très attentif, mais aussi très compétent, c'était où est le périmètre? Comment délimitez-vous votre périmètre? Où sont les frontières? Et je pense que l'échevalement et les terris peuvent apporter une réponse. Une réponse, notamment par l'éclairage, par l'éclairement. Bref, c'est à nous de bien mesurer comment nous délimiterons cette nouvelle ambition. Et je termine en vous disant ceci. Paysage contesté, paysage, je l'espère, transcendé, et paysage désormais au service du développement économique, de l'attractivité du territoire. Car c'est le pari que nous voulons faire. Nous savons maintenant que sur le plan de cet atout fondamental qui petit à petit surgit dans l'aménagement du territoire d'un pays comme la France, mais pas seulement la France, qui petit à petit s'impose à tous ceux qui pensent l'équité entre les territoires, que sur le plan de l'attractivité du territoire, le Nord-Pas-de-Calais et le bassin minier jouaient en troisième division. Et notre but dans le bassin minier, c'est de jouer en deuxième, et peut-être avec le Louvre et d'autres choses, mais nous entendons en première division, d'attirer. Je vous donne deux, trois chiffres pour bien vous montrer que derrière l'ambition économique, l'ambition du développement, l'ambition du bonheur collectif est là. Si vous prenez tous les arrondissements de France et si vous prenez la base de leur activité marchande liée au marché, et même parfois liée à la présence publique, mais je prends d'abord le marché. Le chiffre est 100 pour tous les arrondissements de France. Pour l'arrondissement de Lens, 400 000 habitants au cœur du bassin minier, il est de 42. Et pourtant, l'arrondissement de Lens, depuis quelques années, produit et crée plus d'emplois que la métropole lilloise. Ouais. Croît plus vite que la métropole lilloise. Mais nous venons de très, très, très loin. Et si vous prenez l'arrondissement de Lens, toujours dans cette perspective de l'attractivité du territoire, de la contestation dominée au service du développement et des habitants, vous apercevez que si dans l'arrondissement de Montreuil, dans le Nord-Pas-de-Calais, on a dépensé sur la base de 2000, en gros, 38 000 francs par an et par personne venant de l'extérieur, eh bien tout en bas, dans l'arrondissement de Lens, venant de l'extérieur, on a dépensé sur la même base 2000 francs par an et par personne. C'est-à-dire, malgré le Stade Bollard, malgré 40 000 fidèles réunis régulièrement, les dépenses de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie résidentielle sont tout à fait marginales dans la vie économique, la vie sociale, la vie culturelle de l'arrondissement. Voilà aussi un des enjeux de cette contestation des paysages miniers que nous devons mettre désormais au service de ce que j'appelle une transfiguration et aussi au service du développement de toute la région. Ce serait quand même un paradoxe que l'on vienne visiter, et j'espère que ce sera un paradoxe, les cités minières, les terris, les paysages miniers dans les prochaines années, apportant une partie du développement économique et de la cohésion sociale dont les transferts sociaux liés à l'histoire ne seront plus capables dans 10 ans d'assurer en quelque sorte la pérennité. Bon, voilà, donc c'est un peu long, mais c'est pour vous dire que ce colloque est très important. Ce colloque est très important et qu'il y a encore 10 ans, il était non seulement improbable, mais inimaginable. Et qu'il y a 20 ans, il n'était absolument pas à l'ordre du jour, car comme je vous l'ai dit, au plus haut niveau de l'État, en toute bonne foi, on pensait que comme une ville d'Arizona, ouverte à tous les vents, qui est visitée au nom de la ruée vers l'or, ou des anciennes épopées du Far West liées à la mine, quelle qu'elle soit, comme en Arizona, le paysage minier, le bassin minier, les villes minières relevaient strictement de la curiosité du passé. Merci de votre attention.
Alors, Monsieur le Président, vous avez raison, il y a 20 ans, c'était tout à fait improbable, mais il y a 20 ans, et même un peu plus, des hommes ont porté très haut la défense du patrimoine industriel et du patrimoine minier en particulier, comme vous l'avez fait, et parmi eux Louis Bergeron. C'est la raison pour laquelle nous avons souhaité, et nous sommes très très heureux d'avoir avec nous ce matin Louis Bergeron, qui depuis de très nombreuses années milite, c'est un véritable militant de la défense de la culture industrielle et minière, de la protection de ce patrimoine. Il a accepté de venir ouvrir la partie scientifique de notre colloque. Je le remercie vivement et je lui laisse la parole volontiers.
Chers amis, en m'adressant à vous ce matin, je ne peux m'empêcher de reconnaître avant tout dans ce colloque une manifestation qui servira la cause de la candidature du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais à une inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO dans la catégorie des paysages culturels évolutifs, une perspective que vient d'évoquer avec confiance Monsieur le Président Percheron. Il sera à tout le moins ce colloque l'occasion d'approfondir encore une réflexion qui est déjà bien engagée sur cette thématique paysagère et patrimoniale et de faire mieux connaître cette région et cette candidature auprès d'un public averti, que ce soit à l'occasion des visites de terrain, des communications ou des tables rondes inscrites au programme. Élargir sans cesse la sympathie et le soutien actif de l'opinion. Faire reconnaître les efforts déployés grâce à l'intelligence et au cœur d'une population et de ses élus en vue de préserver sa richesse culturelle et de la partager avec d'autres au dehors et au dehors des frontières, tel est bien en effet le processus dont une candidature a besoin tout autant que de la rédaction d'un dossier. Ce que je voudrais dire, c'est d'autre part que l'on ne peut être que très impressionné par ce qui s'est passé en quelque 30 ans dans ce bassin minier, considéré aujourd'hui comme le réceptacle et le conservatoire d'un patrimoine industriel d'une ampleur considérable. Impressionné aussi par la manière dont s'y est effectuée la transition du traumatisme paralysant de la désindustrialisation à la phase de réactivation de ce patrimoine dans son intime liaison avec de nouveaux projets de développement. Et parallèlement, je voudrais retracer le parcours selon lequel s'est effectuée par étapes une autre transition, celle de la lutte pour la conservation individuelle des monuments emblématiques de la mine, à une reconquête et à une recomposition de la mémoire du bassin minier, aujourd'hui appréhendée non seulement dans toutes les composantes du patrimoine industriel, mais dans sa globalité territoriale et dans sa qualification de paysage culturel. Qu'il me soit permis de rappeler que, dès le mois d'octobre 1979, à l'initiative d'hommes tels que Pierre Mauroy, président du Conseil régional Nord-Pas-de-Calais, et Noël Joseph, vice-président de ce même conseil et président de l'Office culturel régional, et avec la collaboration de toutes les forces intellectuelles, culturelles, mais aussi économiques de la région, s'est tenu à Lille un colloque audacieusement intitulé « Patrimoine industriel, stratégie pour un avenir, expérience nationale et internationale de mise en valeur du patrimoine industriel ». Un intitulé qui n'a pas pris une ride. À une telle date, en somme, et en cette occasion lilloise, la plupart des problèmes concernant la connaissance, la conservation et la réutilisation du patrimoine industriel avaient déjà été évoqués. Et, devenu peu après Premier ministre, le député-maire de Lille devait se féliciter en 1981 que le colloque de 1979 ait insisté sur l'élargissement de la notion de patrimoine au savoir-faire et au courage des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire de la mine, estimant que ces références étaient très mobilisatrices auprès de la population. Ainsi, Pierre Mauroy adhérait-il à une démarche conjointe déjà engagée à cette date par les ethnologues et les historiens, et qui aboutit à équilibrer la mise en valeur du patrimoine industriel entre patrimoine matériel et patrimoine immatériel. Il a fallu du temps, bien sûr, pour que les bonnes intentions et les bons principes arrivent à maturité et à réalisation. Dans les années 80, le contexte restait pour l'ensemble de la région et dans nombre de secteurs, celui du choc des pertes d'activité, choc humain, économique, technique, culturel donc au sens le plus large du terme, et qui n'avait pas encore achevé de développer toutes ses conséquences. Pourtant, dans ces mêmes années, des avancées majeures ont été réalisées en faveur du patrimoine industriel. En 1982, s'est constitué le Centre historique minier, qui accueille aujourd'hui ce colloque. Au terme de 10 à 15 ans de collecte d'archives des anciennes compagnies minières absorbées dans la nationalisation des charbonnages. En 1983-84, se mettait en place l'opération des archives du monde du travail à Roubaix. Dans cette phase, toutefois, on en restait encore à la conception d'un sauvetage du patrimoine industriel, ciblant avant tout celui des archives d'entreprise. Mais les années suivantes ont connu l'installation d'instruments publics de gestion, gestion du patrimoine foncier et immobilier des houillères. Cependant que le démarrage de l'association de la chaîne des terriers contribuait de façon spectaculaire à faire émerger l'idée et l'image d'une conservation du patrimoine industriel en trois dimensions, entre un symbole fort de la production désormais figée et des préoccupations touchant à l'environnement. C'était donc là les premières rencontres entre patrimoine de la mine et paysage de la mine. La création de cette chaîne et ses objectifs ont donné l'impulsion à un retour d'affection à l'égard de l'élément le plus impressionnant qu'ait introduit l'industrie dans le paysage antérieur à l'exploitation charbonnière. Un élément tout aussi porteur d'imagination collective que l'échevalement eux-mêmes. Mais ce même retour en grâce du terri a en outre préparé la diffusion à une nouvelle échelle de la vision d'ensemble du bassin minier, puisque seule l'ascension d'un terri autorise l'accès du public à une appréhension globale, ou tout au moins à une appréhension à grande distance, du paysage de la mine, entendu comme système technique et architectural étendu aux dimensions d'un territoire vaste et homogène. Les terriers sont en quelque sorte devenus autant de centres d'interprétation possibles de cette nouvelle réalité patrimoniale, réalité et concept à la fois, tandis que les photographies aériennes anciennes ou contemporaines, publiées alors en atlas ou bien largement reproduites, apportaient de leur côté leur contribution irremplaçable à une telle compréhension. La contemplation, mais aussi l'analyse des paysages panoramiques, sont devenus ainsi l'instrument d'une démarche dans laquelle le plaisir et l'admiration jouent le même rôle, initiateur irremplaçable, compte tenu de longue date les expositions de photographie et de peinture qui, à la hauteur du sol, ont ouvert aux yeux de tant de visiteurs et de lecteurs depuis les années 70, les portes du patrimoine architectural, technique et humain de l'industrie. Dans une course dont l'issue restait encore incertaine, entre partisans de la table rase, et je salue l'allusion faite par M. le Président du Conseil Général à l'un des ennemis les plus mortels de ce patrimoine, l'issue restait encore incertaine entre défenseurs, entre partisans de la table rase et défenseurs des signes matériels de la mémoire, et alors que s'approchaient des échéances fatidiques de fermeture des dernières fosses, le début des années 1990 a alors constitué un tournant. L'inventaire général, dans un sursaut, décida de se porter au secours du patrimoine technique du bassin minier, marquant ainsi une volonté nationale de parer au danger d'une destruction massive des témoignages physiques de son passé, et en particulier des chevalements encore restés debout, et une telle démarche n'était que justice. bien plus que les cheminées, emblème presque banalisé de l'archéologie des manufactures, les chevalements ne jalonnent-ils pas, en effet, dans la diversité étonnante de leur architecture, toute une évolution technique de l'équipement des sites d'extraction? Et leur silhouette, que l'on a pu comparer parfois à celle des beffrois, ne sont-elles pas, plus encore que des repères, autant de rappels du lien si fort qui, pendant longtemps, a uni le fond et la surface, les hommes et le trésor souterrain? Désormais, les chevalements qui, depuis, ont été eux aussi parfois mis en lumière au sens technique de l'expression, peuvent donc jouer en toute sécurité leur rôle de jalon, de repère sacré, et peut-être un jour le rôle de nœud d'un réseau serré de biens patrimoniaux. Au-delà des chevalements, les carreaux ont commencé alors à bénéficier en quelques points privilégiés d'une attention particulière à la fin du siècle, une attention qui marquait le passage à une pratique de sauvegarde de sites complets et non plus seulement d'un petit nombre d'éléments remarquables mais isolés. Aujourd'hui, c'est-à-dire 15 à 20 ans plus tard, nous n'en sommes plus là. Le patrimoine industriel du bassin minier a évolué de la résistance à l'offensive. Le contexte global a littéralement basculé d'une conservation encore frileuse et arc-boutée sur le passé, fût-ce avec les meilleurs arguments, vers une valorisation active et une intégration dynamique du patrimoine industriel auprès des nouvelles générations, en même temps que dans les perspectives du développement durable et du développement local. S'accompagnant d'un effort de connaissances historiques approfondies et d'inventaire généralisé, ce basculement débouche dans la première décennie du XXIe siècle sur une volonté audacieuse de promouvoir le patrimoine du bassin minier et d'en consolider la transmission à long terme en présentant sa candidature à la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette volonté prend tout son sens, il va sans dire, au niveau de la région et de son redéveloppement. Mais, d'ores et déjà, la préparation de la candidature connaît un retentissement national que ne manquera pas d'amplifier son succès final, dont personnellement je ne veux pas douter. Pourquoi ? Parce que cette candidature aura été le résultat d'une adhésion, la première du genre en France, de larges couches de la population à une réconciliation entre un passé glorieux et un futur auquel elles maintiennent leur confiance. Un succès également qui sera dû à l'adoption d'un cadre de référence patrimonial qui rassemble l'ensemble des signes porteurs de la mémoire la plus exigeante et donc la plus capable de ce fait d'enrichir un projet d'avenir. Dès lors, le paysage de la mine ne sera plus jamais un paysage contesté. Il me reste, pour motiver cet optimisme, à dire à quels acteurs il renvoie et comment ce paysage doit être compris. La candidature du bassin minier est née d'une initiative associative directement enracinée dans la population et relayée par les instances départementales et régionales. Elle incarne une démarche remontante, partant de la base, si l'on peut ainsi s'exprimer, pour porter ses convictions jusqu'au niveau de l'État et de ses représentants dans la région. À vrai dire, il faut se souvenir que le lancement de l'association BMU a été précédé, dès les années 1980 dans cette région, par un certain nombre d'initiatives, certes de moindre ampleur, prises par quelques municipalités en faveur de leur patrimoine industriel, pris essentiellement comme un patrimoine local. Initiatives aussi prises par des programmes de recherche universitaire à l'île 3, programmes très originaux, qui depuis n'ont malheureusement pas retrouvé leur leader. Mais cette fois, c'est-à-dire dans les années que nous vivons, la mobilisation est d'une toute autre ampleur. Elle bénéficie du renforcement de l'intercommunalité. Elle implique l'engagement dans une même ambition et sur des principes d'action qui ont été définis en commun d'un grand nombre de municipalités. À partir de 2000, d'autre part, la région s'est trouvée à l'articulation d'un contrat de plan visant à mettre en place un ambitieux programme de restructuration. On assiste donc à la réactivation d'un sentiment demeuré en fait vivant, un sentiment d'appartenance à un même héritage identitaire, un sentiment que ne renie, je crois, aucune des collectivités incluses dans le périmètre historique du bassin minier et qui, sur la base d'un territoire et d'une population aux composantes multiples, dessine bien les contours d'un paysage culturel. Souvenons-nous que plus d'un responsable de l'ICOMOS, qui accueillera ce dossier, a rappelé depuis des années l'importance décisive de la réappropriation de leur patrimoine par les populations qui s'y reconnaissent comme étant le facteur décisif de la pérennisation de ce patrimoine. C'est en tout cas un complément indispensable à toute reconnaissance et protection venue d'en haut et comme la garantie de la survie déjà décidée au nom de la loi seule. Quant au paysage, il n'est pas inutile de revenir sur le terme. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la recherche en sciences sociales en France a usé sans mesure de termes de la langue commune tels que « espace », « région » et aussi « paysage », condamnant ainsi ces malheureux termes à passer au statut de concept de référence dans l'analyse de multiples phénomènes au risque de glissement sémantique ou d'extension de sens qui peuvent brouiller les argumentations. Pour ma part, il me semble légitime de rappeler le contenu précis qu'ont attribué au paysage quelques grands géographes du siècle passé, qui étaient d'ailleurs avant tout de bons historiens. Je pense à Roger Dion ou à André Chollet, à titre d'exemple. Ils nous ont appris à lire le paysage comme un ensemble de données interdépendantes, consistant en une construction à la fois technique et sociale de l'espace, exprimant un degré d'organisation caractéristique de différents âges de l'humanité ou de différentes aires géographiques de la planète et sur des bases territoriales d'une étendue très variable. À ce titre, le paysage peut bien sûr, peut à coup sûr, acquérir une valeur patrimoniale qui n'est pas liée dans le cas qui nous occupe à une valeur exceptionnelle d'antiquité, d'intégrité, de beauté, etc., mais au fait qu'il peut être reconnu comme une création, comme une intervention de l'homme sur son environnement, méritant d'être protégé et transmise en tant que bien commun de l'humanité. Nous vivons actuellement une époque où nous devons être très attentifs aux phénomènes massifs d'empiétement d'un type de civilisation sur un autre, et donc au risque de destruction de témoignages exceptionnels. On a souvent insisté sur les dommages occasionnés par l'industrialisation moderne au cours d'une phase de sédimentation relativement brève, au paysage agraire hérité du Moyen-Âge à travers bien des modifications. Mais l'un des défis du XXIe siècle réside désormais dans la menace qui pèse aussi bien sur les paysages industriels survivants que sur les lambeaux des vieux paysages agraires ou encore sur les zones littorales, du fait des excès d'une nouvelle forme d'utilisation sociale de l'espace par les différentes versions de l'urbanisation généralisée ou encore du fait des emprises des nouveaux moyens de communication. Il paraît peu contestable que le bassin minier, en raison de sa structure et de son histoire, mérite de voir sa conservation patrimoniale envisagée dans un cadre global. Sans doute, certains de ces éléments techniques ou architecturaux, tel ou tel de ces sites mieux conservés que d'autres, méritent-ils une révérence particulière? Mais, en réalité, il faut nous garder de laisser échapper presque l'essentiel, tout comme la conservation d'une seule toile d'un grand maître ne saurait suffire à rendre compte de toutes les facettes de son œuvre. Il peut y avoir des cas, et précisément nous en tenons un ici, où la revendication de protection selon des modalités inédites de 1000 km² d'un territoire autorisera la valorisation d'un héritage dont la cohérence et les enseignements seraient perdus dans la prise en considération d'un seul de ces échantillons ou même de plusieurs d'entre eux. Pourquoi, dira-t-on ? Eh bien, je serai ici très rapide et je vais conclure. D'autres que moi ont déjà dit pourquoi. D'abord, parce que ce long ruban minier déroule dans une même marche d'est en ouest la plupart des phases de 2 siècles d'évolution technique et de conquête du sous-sol. Ensuite, parce que le bassin minier illustre une modalité particulière de la relation entre un paysage industriel et le paysage préexistant dont il a réduit l'emprise. Cette réduction s'est opérée en effet non pas par une destruction systématique et homogène du cadre rural antérieur, mais au gré des opportunités du sous-sol et en laissant subsister au stade final de nombreuses interpénétrations entre usage agricole et usage industriel des sols. D'autre part, le bassin tout entier représente une mémoire complète et concrète de l'histoire moderne de l'extraction de la houille, qui se trouve ainsi reconstituée dans ses caractéristiques techniques et économiques, dans ses profils bâtis ou dans son orographie artificielle. Le bassin ne se regarde pas seulement au sens banal du terme du haut d'un terril ou à bord d'un hélicoptère, il se lie à livre ouvert. Enfin et surtout peut-être, l'unité du paysage se forge dans un enchaînement de versions successives d'un même modèle d'organisation technique, sociale et spatiale du territoire, qui est celui d'une machine à vivre et à produire autour du puits d'extraction. Il est reconnu que la plus forte originalité du bassin tient à ce qu'il a implanté durablement un nouvel habitat en territoire rural ou aux marges des petites villes anciennes, un habitat aux dimensions variables, n'obéissant pas à un modèle unique et renouvelant d'âge en âge, en même temps que ses styles, le cadre de la vie ouvrière, au point de constituer à sa façon une véritable internationale Bauhausstellung permanente. Avec les terris, les puits d'extraction et la desserte procurée par tout un système de communication, les habitats des mineurs définissent ainsi une version originale de l'histoire de la vie ouvrière, élément sans doute majeur d'une entreprise humaine dont nous savons qu'elle s'est construite d'une façon agressive à l'origine, mais qui aujourd'hui, au jour sinon au fond, apparaît stabilisée dans une certaine harmonie avec son entourage. S'agissant de l'habitat, faut-il se souvenir qu'à l'heure actuelle, il y a des analystes pour penser que le modèle dont nous avons hérité ici représente un type de gestion économe du territoire fondé sur une plus grande proximité des lieux de résidence et des lieux de travail, tandis que la clientèle du marché des logements modernisés, nous le savons, semble s'y sentir à son aise. Alors je conclus, l'échelle du paysage, dans le cas présent, est celle d'un territoire homogène, dans les limites duquel sont rassemblés tous les types de témoignages matériels d'une histoire technique et humaine du bassin minier. Un territoire à l'égard duquel une partie au moins de la population présente aujourd'hui sur les lieux continue à ressentir un sentiment d'appartenance lié à son histoire, un sentiment de fierté et de propriété à l'égard d'un patrimoine à la création duquel elle-même et ses ascendants ont contribué, qui définit encore son cadre de vie, son cadre de mobilité quotidienne, et qui reste imprégné, au moins symboliquement, de ses valeurs et de ses coutumes. c'est à l'échelle de ce paysage et de tout le territoire de l'ancien pays noir que peuvent véritablement s'interpréter le fonctionnement du système de la mine et la mise en place d'une micro-société unique en son genre. Le patrimoine industriel, c'est aussi cela, un parcours reliant les traces les plus modestes aux horizons les plus englobants. Je vous remercie de votre attention.